15. La première pensée qui vient à Hodges quand Jérôme entre, c'est « Nom de Dieu, petit, ce que t'as grandi !» À l'époque où Jérôme Robinson avait commencé à travailler pour lui, d'abord en tant que petit voisin venant tondre sa pelouse, puis en tant qu'homme à tout faire, enfin, en tant qu'ange gardien informatique maintenant son ordinateur en état de marche, c'était un adolescent monté en graine, 1m80, 70 kilos. Le jeune géant qui franchit la porte doit faire pas loin de 2 mètres et peser au moins 95 kilos. Il a toujours été beau gosse, mais là, c'est un beau gosse au look de star de cinéma et à la musculature pleinement développée. L'individu en question se fend d'un grand sourire, traverse le bureau en 2 enjambées et donne l'accolade à Hodges. Il le serre dans ses bras, mais relâche promptement son étreinte en le voyant grimacer. « Oh, pardon !»
Tu ne m'as pas fait mal. C'est juste que je suis heureux de te voir, mon gars. »
Sa vue est un peu brouillée, et il s'essuie les yeux de la paume des mains.
« Tu es un régal pour les yeux. »
« Toi aussi, comment tu te sens ?»«
Là, tout de suite, bien. J'ai décomprimé pour la douleur. Mais tu es un meilleur remède. »
Holly est restée debout sur le seuil, manteau d'hiver déboutonné, petite main nouée devant elle. Elle les observe avec un sourire mécontent. Hodges n'imaginait pas qu'une telle chose puisse exister, mais apparemment si.
« Approche, Holly, » lui dit-il. « Pas de câlin de groupe, je te promets. Tu as briefé Jérôme sur notre affaire ?»«
Il est au courant pour la partie Barbara. Mais j'ai jugé préférable de te laisser lui raconter le reste. »
Jérôme pose brièvement une grande main chaude sur la nuque de Hodges. Holly dit que t'entres à l'hôpital demain pour faire d'autres examens et démarrer un traitement, et que si tu discutes, je suis chargé de te dire de la boucler.
« Pas de la boucler, » dit Holly avec un regard sévère pour Jérôme. « Je n'ai jamais employé cette expression. »
Jérôme sourit gaiement. « Tes lèvres disaient se taire, mais tu avais la bouclée dans les yeux.
« Idiot, »
dit-elle, mais son sourire est revenu.
« Heureuse qu'on soit tous ensemble, » se dit Hodges, mais triste de ce qui en est la cause.
Il coupe court à leur fraternelle et étrangement plaisante rivalité en demandant comment va Barbara.
« Bien, double fracture du tibia et du péroné dans la partie médiane. Ça aurait pu lui arriver sur le terrain de foot ou au ski. Devrait se ressouder sans problème. Elle a un plâtre et commence déjà à se plaindre que ça la démange. Maman est allée lui acheter un truc pour se gratter.
« Holly, tu lui as montré le tapissage ?»«
Oui, et elle a choisi le docteur Babineau, sans une seconde d'hésitation. »«
J'ai quelques questions pour toi, Doc, » se dit Hodges,
« et j'ai bien l'intention d'obtenir quelques réponses avant la fin de mon dernier jour. Et si je dois t'essorer pour que ça sorte, te faire sortir les yeux de la tête, je ne vais pas me gêner. »
Jérôme se pose sur un coin du bureau de Hodges, son perchoir habituel.
« Raconte-moi tout depuis le début. Je repérerai peut-être quelque chose de nouveau. »
Hodges se lance. Holly va à la fenêtre et contemple Marlborough Street, bras croisés, mains refermées sur ses épaules. De temps à autre, elle ajoute un détail. Sinon, elle aussi écoute. Quand Hodges a terminé, Jérôme demande
« Cette histoire de pouvoir de l'esprit sur la matière, t'y crois, toi ?»
Hodges réfléchit. « Oui, à 80%, peut-être plus. Je sais, c'est dingue. Mais trop d'événements se sont produits pour ne pas en tenir compte. »«
S'il a pu le faire, c'est de ma faute, » déclare Holly sans se détourner de la fenêtre. « Quand je l'ai frappé avec ton lapis-lapeur, Bill, il est possible que ça ait réorganisé ses neurones, lui donnant accès aux 90% de matière grise que nous n'utilisons jamais. »«
Peut-être, » dit Hodges. « Mais si tu l'avais pas assommé, « Jérôme et toi seriez morts. »«
Et pas que nous. Des tas d'autres gens aussi, » dit Jérôme. « Et peut-être que les coups à la tête n'y sont pour rien. Par contre, les machins que lui a administré Babineau ont pu faire plus que le sortir du coma. Les molécules expérimentales ont parfois des effets secondaires inattendus, tu sais. »«
Oui, ça pourrait être une combinaison des deux, » dit Hodges.
Il n'en revient pas qu'ils aient cette conversation. Mais s'ils ne l'avaient pas, ce serait contrevenir à la règle numéro 1 de la profession d'enquêteur. Tu vas où les faits te conduisent.
Il te haïssait, Bill, dit Jérôme. Au lieu de te suicider comme il le souhaitait, tu l'as pourchassé.
En te servant de son arme,
ajoute Holly sans se retourner et en étreignant toujours ses épaules.
Tu as utilisé le parapluie bleu de Debbie pour le forcer à se dévoiler. C'est lui qui t'a envoyé ce message il y a deux nuits. Je sais que c'est lui. Brady Hartsfield, sous le pseudonyme de Z-Boy.
Elle se retourne.
C'est gros comme le nez au milieu de la figure. Tu l'as arrêté au Mingo ?
Non, je faisais une crise cardiaque au rez-de-chaussée. C'est toi qui l'as arrêté, Holly.
Elle secoue férocement la tête.
Ça, il l'ignore. Il ne m'a jamais vu. Tu crois que je pourrais oublier ce qui s'est passé ce soir-là ? Jamais je ne l'oublierai. Barbara était assise quelques rangs plus haut, de l'autre côté de l'allée, et c'était elle qui le regardait, pas moi. Je lui ai crié quelque chose, et je l'ai frappé dès qu'il a commencé à tourner la tête vers moi. Et je l'ai frappé encore. Oh là là, ce que je l'ai frappé !
Jérôme a un mouvement vers elle, mais elle l'arrête d'un geste. Le contact visuel lui coûte, mais là, elle regarde Hodges droit dans les yeux, et les siens flamboient.
C'est toi qui l'as poussé hors de ses retranchements. Toi qui as deviné son mot de passe pour qu'on puisse pirater son ordinateur et découvrir ce qu'il allait faire. C'est à toi qu'il en a toujours voulu. Je le sais. Et ensuite, tu as continué à aller le voir dans sa chambre, à t'asseoir avec lui et à lui parler.
Et tu crois que c'est la raison pour laquelle il a fait ça, peu importe ce que recouvre ce « ça ».
Non !
Elle le crie presque.
Il a fait ça parce que c'est un touffu malade mental.
Il y a un bref silence, puis, d'une voix tremblotante, elle dit qu'elle est désolée d'avoir levé la voix.
« T'excuses pas, Holly Berry, » dit Jérôme. « Tu m'éclates quand t'es à fond. »
Elle lui fait une grimace. Jérôme lâche un petit rire moqueur et demande à Hodges où est le zapit de Dina Scott.
« J'aimerais y jeter un coup d'œil. »«
Dans la poche de mon manteau, » lui dit Hodges. « Mais fais gaffe à la démo de Fishing Hole. »
Jérôme fouille dans le manteau de Hodges, écarte un rouleau de Tums et l'immuable bloc-notes de l'enquêteur et extrait le zapit de verre de Dina.
« Oh purée ! Je croyais que ces machins étaient morts en même temps que les magnétoscopes et les modems analogiques. »«
Ils le sont pour la plupart, » dit Holly. « Et leur prix n'a pas aidé. J'ai vérifié. 189 $, prix de vente conseillé en 2012. Ridicule. »
Jérôme fait passer le zapit d'une main dans l'autre. Son visage est fermé. Il a l'air fatigué.
« Normal, se dit Hodges. Hier encore, il construisait des maisons en Arizona. Il a dû rentrer dardard à la maison parce que sa petite sœur d'ordinaire si joyeuse a tenté de se tuer. »
Peut-être Jérôme a-t-il lu une partie de ses pensées sur le visage de Hodges.
« Ça va aller pour sa jambe. C'est son esprit qui m'inquiète un peu. Elle parle de flash bleu et d'une voix qu'elle a entendue, une voix qui sortait du jeu.
« Elle dit qu'elle a encore cette voix dans la tête, »
ajoute Holly,
« comme une chanson qui se transforme en leitmotiv obsédant. Ça passera sûrement avec le temps, maintenant que son jeu est détruit. Mais les autres, ceux qui ont encore leur console gratuite entre les mains ?»
Le site mauvaisconcert.com ayant fermé, dit Hodges, y a-t-il un autre moyen de savoir combien ont été distribués ?
Holly et Jérôme échangent un regard et secoue la tête de façon identique.
« Merde, » dit Hodges. « Enfin, pas que ça me surprenne vraiment, mais... merde quand même. »
« Est-ce que celle-là émet des flashs de lumière bleue ?»
Jérôme n'a pas encore allumé le zapit, qu'il continue à faire passer d'une main dans l'autre comme dans le jeu de la patate chaude.
« Non, et les poissons roses ne se transforment pas en chiffres. Laissez-le, tu verras. »
Au lieu de ça, Jérôme retourne l'objet et ouvre le compartiment des piles.
« Piles AA toutes bêtes, » dit-il. « Des rechargeables. Aucune magie là-dedans. Mais tu dis que la démo de Fishing Hole t'endort ?»«
C'est ce qu'elle m'a fait, » confirme Hodges.
Il ne précise pas qu'il était shooté au Médoc en même temps.
« Alors qu'il est, » dit-il, « c'est plus Babino qui m'intéresse. Il est mouillé dans l'histoire. J'ignore comment leur association a commencé. » Mais s'il est encore en vie, il nous le dira. Et il y a un deuxième homme impliqué.
Celui que la femme de ménage a vu, dit Holly, qui conduit une vieille voiture avec des taches d'après. Vous voulez savoir ce que je pense?
Vas-y, balance.
L'un des deux. Soit le docteur Babino, soit l'homme à la vieille voiture, a rendu visite à l'infirmière qui s'est suicidée, Ruth Scapelli. Hartsfield devait avoir une dent contre elle.
« Comment aurait-il pu envoyer quelqu'un quelque part ?» demande Jérôme en refermant le compartiment des piles.
« Contrôle mental ?»«
D'après ce que tu sais, Bill, ouvrir l'eau dans sa salle de bain était le max qu'il pouvait faire avec sa télé machin-chose. Et même ça, j'ai du mal à le croire. Ça pourrait être juste une rumeur. Une légende hospitalière, comme il y a des légendes urbaines.
« Ça doit être les consoles de jeu, » fait Hodges pensif. « Il les a trafiquées. » Les a boostés d'une manière ou d'une autre.
De sa chambre d'hôpital ?
Jérôme lui décoche un regard qui dit « Allons, sois sérieux. »
Je sais, ça tient pas debout, même si on prend en compte la télékinésie. Mais c'est forcément les jeux. Forcément.
« Babino crachera le morceau, » dit Holly.
« Elle fait des rimes sans le savoir, » dit Jérôme d'un ton admiratif. Il continue à jongler avec le zapit. Hodges a le sentiment qu'il résiste à l'envie féroce de le jeter par terre et de le piétiner. Et ce serait raisonnable. Après tout, c'est un engin comme celui-là qui a failli provoquer la mort de sa sœur.
« Non, se dit Hodges, pas exactement comme celui-là. »
La démo de Fishing Hole du Zapid de Dina ne produit qu'un léger effet hypnotique, mais rien de plus. Et c'est sûrement...
Il se redresse brusquement, se décochant une flèche de douleur au côté.
« Holly, tu as fait des recherches internet à propos du jeu Fishing Hole ?»«
Non, » dit-elle, « je n'y ai même pas pensé. »«
Tu veux bien le faire ? J'aimerais savoir. » »«
S'il y a des discussions à propos de l'écran de démo, j'aurais dû y penser. Je vais voir de suite. »
Elle sort précipitamment pour rejoindre son bureau dans l'entrée.
« Ce qui m'échappe, » dit Hodges, « c'est pourquoi Brady aurait voulu se suicider avant de voir le résultat.
« Tu veux dire combien de jeunes il pourrait pousser au suicide ?» dit Jérôme. « Des jeunes qui étaient à ce putain de concert ?»« Parce que c'est bien de suicide qu'on parle, hein ?»«
Ouais, » dit Hodges. « Il y a trop de zones d'ombre, Jérôme. Beaucoup trop. Je ne sais même pas comment lui-même s'est tué, s'il l'a réellement fait. »
Jérôme presse ses paumes sur ses tempes comme pour empêcher son cerveau d'enfler.
« S'il te plaît, me dis pas que tu le crois encore en vie. »
« Non, il est mort, c'est un fait. Pete n'aurait pas fait une erreur pareille. Ce que je veux dire, c'est que peut-être quelqu'un l'a assassiné. Sachant ce qu'on sait, Babino serait le suspect numéro un. »«
Nom de Zeus !»
clame Holly dans la pièce voisine. Un instant de divine harmonie passe entre Hodges et Jérôme, alors qu'ils luttent contre le fou rire.
« Quoi ?»
lance Hodges. C'est tout ce qu'il arrive à dire sans exploser en sauvage braiement d'hilarité qui meurtrirait son abdomen tout autant que l'amour-propre de Holly.
« J'ai trouvé un site appelé Hypnose Fishing Hole. La page d'accueil avertit les parents de ne pas laisser leurs enfants regarder l'écran de démo trop longtemps. Le phénomène a été constaté pour la première fois dans la version arcade du jeu en 2005. Ils l'ont résolu sur la Game Boy, mais sur Zapit, attendez. Si, ils disent qu'ils l'ont résolu. Mais c'est faux. Il y a un long fil de discussion.
Hodges consulte Jérôme du regard. Elle veut dire que les gens discutent en ligne, dit Jérôme.
Un gamin à des moines a perdu connaissance. Il s'est cogné la tête contre l'angle de son bureau et s'est fracturé le crâne.
Elle a presque le ton extatique, tandis qu'elle se lève comme un ressort et vient les rejoindre en toute hâte. Ses joues sont roses d'excitation.
Il a dû y avoir des plaintes et des procès. Je parie que c'est pour ça que la compagnie Zapit a coulé. C'est même peut-être pour ça que Sunrise Solutions...
Sur son bureau, le téléphone se met à sonner.
« Oh, crotte !»
dit-elle en se tournant pour aller répondre.
« Dis-leur qu'on est fermé. »
Mais après avoir dit « Finder Keepers, j'écoute », Holly se contente effectivement d'écouter. Puis elle se retourne en tendant le combiné.
« C'est Pete Huntley. » Il dit qu'il doit te parler immédiatement et il a l'air drôle, genre triste ou en rogne ou quelque chose.
Hodges s'avance pour découvrir ce qui rend Pete triste ou en rogne ou quelque chose. Derrière lui, Jérôme finit par allumer le zapit de Dina. Dans le nid à ordinateur de Freddy, elle-même a pris 4 excédrines avant d'aller dormir, trouver 44 passe à trouver 45. Le répéteur clignote, en charge. Puis il clignote,
tâche terminée.